Il est 22h sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec le journal de la nuit.
Un nouveau record pour les...
Europe Nuit.
Johan Tritz.
Un nouveau record pour les cas de contamination. La barre symbolique des 200 000 a été franchie. Olivier Véran, ministre de la Santé, parle d'un raz-de-marée. Une flambée qui a poussé la mairie de Paris à agir. À côté de vendredi, le port du masque redevient obligatoire dans les rues parisiennes. D'autres mesures ont été prises pour la nuit de la Saint-Sylvestre. L'île de la Réunion sous couvre-feu à partir du week-end prochain. Le préfet de la région l'a instauré à cause d'une situation sanitaire plus que critique. Et enfin, faut-il diminuer la jauge dans les meetings politiques ? C'est la politique du moment.
Europe 1.
Des chiffres qui donnent le vertige. Les propos d'Olivier Véran aujourd'hui devant la commission de loi de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé qui a fait un point sur la pandémie et la situation est alarmante.
Il y a 208 000 Français qui ont été diagnostiqués positifs au Covid au cours des 24 dernières heures. Toutes les secondes dans notre pays, plus de 2 Français sont diagnostiqués positifs au coronavirus. Je ne parlerai plus de vagues. S'agissant d'Omicron, j'aurais tendance à parler de raz-de-marée.
Une multiplication des cas problématiques, mais comment peut-on l'expliquer, Louis Salé ?
Eh bien, d'une part, parce que les Français ne se sont jamais autant testés. Il y a eu l'appel des vacances, des fêtes de fin d'année, des retrouvailles en famille et entre amis avec plusieurs générations mélangées. Tout ça a inquiété les Français qui ont eu peur de contaminer leurs proches. Et c'est logique, puisque cette ruée vers les tests s'observait déjà l'année dernière, exactement à la même période. Et à Noël, il y avait donc eu une augmentation très significative des cas de Covid. D'autre part, cette explosion, eh bien, c'est le fameux effet blast prédit par les scientifiques. C'est-à-dire que tout le monde se contamine en un laps de temps extrêmement court. Chaque personne infectée peut transmettre le virus à 10 autres personnes dans la même journée. La courbe des contaminations est verticale, elle ne ressemble pas aux courbes épidémiques précédentes, elle n'a même plus une forme de vague. Heureusement, les formes développées avec le variant Omicron sont moins graves, mais par effet multiplicateur, toutes ces contaminations finiront par entraîner plus d'hospitalisations.
Merci Louis Salé du service Société d'Europe 1. Une flambée qui a poussé la mairie de Paris à agir. Le masque redevient obligatoire dans les rues de Paris à partir de vendredi. C'est ce que vient d'annoncer la préfecture de police de la capitale. Cette obligation s'applique aux personnes âgées de plus de 11 ans, à l'exception des personnes circulant à l'intérieur des véhicules, des cyclistes et des deux roues, ou des personnes pratiquant une activité sportive, a précisé la préfecture dans son communiqué. Autre mesure, la fermeture des débits de boissons à maximum 2 heures du matin. Danser sera aussi interdit dans les établissements. C'est la première grande ville à prendre de telles actions. À La Réunion, la situation est déjà grave, très grave. Depuis lundi, l'île est en état d'urgence sanitaire. Le préfet de la région a décidé de passer à la vitesse supérieure. Charles Lhuillier est notre correspondant sur place. Un couvre-feu va donc être instauré à partir du week-end prochain.
Oui, La Réunion s'apprête à vivre son 3e couvre-feu en moins d'un an. Ici, le nombre de contaminations par jour a doublé en une semaine. Le taux d'incidence est proche des 700 cas pour 100 000 habitants. Près d'un nouveau cas sur 4 serait positif à Omicron. Conséquence, le nombre d'admissions en réanimation s'est brusquement emballé ces derniers jours. 95% des lits sont désormais occupés. Du coup, Martine Ladoucette, directrice de l'Agence régionale de santé, craint une désorganisation des services à l'hôpital.
Après un quasi-triplement des admissions en réanimation en une semaine, pour pouvoir en hospitaliser ne serait-ce que 10 de plus par jour, il nous faudra fermer 13 salles de bloc opératoire, autant dire renoncer à beaucoup d'interventions chirurgicales programmées.
Ce qui n'arrange rien et qui justifie aussi ce couvre-feu ici, c'est que 15% des plus de 75 ans n'ont même pas encore leur première dose, retard 2 fois plus important qu'en métropole.
Charles Lhuillier, correspondant à Saint-Denis de La Réunion, en partenariat avec Radio Freedom. Une vague déferlante dans le monde entier. L'Organisation mondiale de la santé qualifie même cette vague de tsunami. L'OMS craint un effondrement du service de santé. En France, Olivier Véran et le gouvernement comptent bien réagir avec le pass vaccinal. Le projet de loi a été présenté par le ministre de la Santé à la commission des lois de l'Assemblée nationale. Mais que contient le texte, Victor Chabert ?
Alors, premier élément, le pass sanitaire sera transformé en pass vaccinal.
Concrètement, à compter du 15 janvier 2022, il sera donc nécessaire, dès l'âge de 12 ans, de présenter un justificatif vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants, aux débits de boissons, aux foires, aux séminaires, aux salons professionnels et aux transports interrégionaux.
La présentation d'un test négatif ne sera donc plus possible pour y accéder. Ensuite, le gouvernement veut lutter contre la fraude au pass. Les gérants d'établissements recevant du public pourront demander un justificatif d'identité au détenteur, comme quand un patron de bar a un doute sur la majorité d'un client qui commande de l'alcool. C'est un des points qui fait le plus débat. Certains députés estiment qu'il n'y a que les forces de l'ordre qui peuvent vérifier une identité. Le texte prévoit également la hausse des amendes pour utilisation frauduleuse d'un pass. Elles vont passer de 135 à 1000 euros. La détention d'un faux pass sera punie de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Les discussions s'annoncent intenses. Les insoumis s'opposent au texte et dénoncent un danger pour les libertés publiques, tout comme Marine Le Pen qui, elle, en appelle à rester au dispositif actuel. Outre la majorité, LR et le PS ont eux annoncé voter pour.
Victor Chabert du service politique. Ce pass vaccinal qui ne va rien changer à la situation des discothèques, elles qui devaient rouvrir le 6 janvier prochain vont devoir encore attendre. Le ministre délégué au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a décidé de repousser la date de 3 semaines à cause de la situation sanitaire actuelle et c'est un nouveau gros coup dur pour la branche.
Oui, et les exploitants de discothèques sont à bout de souffle. Ils dénoncent une fumisterie, un non-sens, à l'instar du président de leur syndicat, Patrick Jouni.
Aujourd'hui, rien ne permet de justifier cette fermeture, notamment pas le terme contamination, puisque aucun cluster n'est apparu depuis la réouverture des discothèques. Et pourtant, ce sont les seuls lieux que le gouvernement a décidé de fermer. Ce n'est pas sérieux.
Après plus de 20 jours de fermeture, la profession réclame la mise en place urgente des aides promises par Bercy début décembre. Invité d'Europe 1 ce midi, Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, promet une réponse rapide.
Il n'est pas question là aussi de les laisser en rade. Ce sont des professionnels, je l'insiste, très sérieux pour vérifier l'identité des porteurs de passes sanitaires, pour mettre en place les protocoles. Et face à l'effort qu'on leur demande, naturellement, le président de la République souhaite qu'on soit au rendez-vous sur les aides et le soutien.
Alors en effet, le dispositif pour prendre en charge leurs coûts fixes sera mis en place le 6 janvier prochain, mais le secteur demande au gouvernement d'aller plus loin et de prendre en compte la perte de 15 à 20% de son chiffre d'affaires annuel. Il réclame également des perspectives de réouverture, car les exploitants craignent que ce nouveau report ne soit pas le dernier.
Élise Dangean du service économique d'Europe 1 a rappelé que les discothèques sont fermées depuis le 10 décembre dernier. Jean-Baptiste Lemoyne qui est aussi revenu sur le cas du télétravail. 3 à 4 jours seront obligatoires pour les entreprises qui le pourront à partir du 3 janvier prochain.
On accélère le télétravail parce que le virus accélère, mais ce que je veux dire c'est que le Premier ministre il a été clair. Là, pour tous les salariés pour lesquels c'est possible. Donc, on voit bien les postes qui sont télétravaillables, parce que plutôt des postes liés à l'administration, à la gestion de l'entreprise, et d'autres qui ne le sont pas. Donc, c'est ça qui doit prévaloir, le bon sens, mais l'engagement. Et on sait qu'on peut compter l'engagement sur l'engagement des entrepreneurs, parce qu'effectivement, depuis le début de la crise, ils ont su répondre présent. Et donc, moi, je crois beaucoup dans la confiance mutuelle. Néanmoins, il faut toujours prévoir un dispositif de sanctions au cas où. Mais la confiance fait que j'espère que ce dispositif aura le moins à être utilisé possible. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde voit bien, entrepreneurs comme employés, eh bien la nécessité de mettre plus de télétravail pour éviter trop d'interactions sociales et donc briser toutes les chaînes de contamination qui pourraient exister.
Il pourrait y avoir des sanctions pour les entreprises qui ne joueraient pas le jeu. Pas de distanciel en revanche pour les étudiants qui pourront passer leur examen de janvier en présentiel. C'est l'annonce de la ministre de l'Enseignement, Frédérique Vidal. Et même si l'épidémie bat son plein, il n'y aura aucune jauge instaurée, mais des reports pourront être envisagés au cas par cas. C'est la polémique qui monte en ce moment. Si les événements culturels ou sportifs sont touchés par une diminution de la jauge portée à 2000 personnes en intérieur et 5000 à l'extérieur, les meetings politiques sont pour l'instant exemptés et certains partis comptent bien rien y changer. Alexandre Chauveau.
Alors c'est une source de désaccord entre les différents candidats. La République En Marche appliquera bien la jauge de 2000 personnes en intérieur et en appelle à l'esprit de responsabilité. Appel entendu par Yannick Jadot qui organise déjà des rassemblements limités en nombre de personnes. Éric Zemmour, lui, ne voit pas vraiment les choses de la même façon. Poussé par son premier grand meeting à Villepinte, son équipe assure que d'autres réunions publiques auront lieu, sans jauge, mais avec masque obligatoire et passe sanitaire recommandé. Jean-Luc Mélenchon est également sur cette ligne. Marine Le Pen aussi, comme l'explique Sébastien Chenu, député du Nord, invité ce matin sur notre antenne.
La question ne se pose pas. La Constitution permet normalement, jusqu'à preuve du contraire, mais c'est vrai qu'avec ce gouvernement, il faut s'attendre à tout, aux meetings de pouvoir être tenus sans limitation. Ça n'empêche pas les gestes barrières, ça n'empêche pas de prendre un certain nombre de dispositions. C'est une évidence.
Enfin, chez Valérie Pécresse, la question est encore en débat au sein d'un parti qui a pourtant l'habitude des grands rassemblements. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, devrait réunir une commission dans les prochains jours avec toutes les formations politiques pour tenter de trouver un accord sur les règles à respecter dans les prochaines semaines.
Pas de jauge donc pour les meetings politiques, mais ce sera le cas dans les stades à la rentrée. 5000 personnes maximum, cela n'arrange pas certains clubs qui font de la recette de la billetterie l'une des principales rentrées d'argent. Le RC Lens devait justement jouer 3 matchs à domicile durant ce mois de janvier, dont le 4 contre son voisin Lille. C'est un coup dur économique, mais aussi pour les supporters dépités. Maximilien Carlier.
Muriel est abonnée à Lens depuis plus de 50 ans. Les matchs du Racing à Bollaert, elle n'en loupe aucun. Mais début d'année prochaine, pas sûr qu'elle puisse encourager son équipe à cause de la jauge.
C'est encore les loisirs qui trinquent. Moi j'ai tout fait, je suis vaccinée, j'ai mes 3 vaccins. On fait tout pour avoir une vie plus facile, mais on commence à être désabusé. Hein.
Désabusé, car de grosses rencontres doivent se dérouler dans son stade en janvier, face à Lille, Rennes et Marseille. La question qui se pose chez les fans comme Momo, c'est de savoir qui va aller voir ces matchs.
Depuis le début de saison, on a quand même un stade qui est rempli à plus de 35 000 supporters. Là, on va se retrouver avec 5 000 personnes, donc on ne sait pas comment ça va être géré.
Il y a aussi de l'inquiétude chez les patrons de bars. Les cafés seront certainement pleins, oui, mais nouveau protocole sanitaire. Aucun fan debout, tout le monde assis et donc moins de place. Thierry, patron du café Le Bollaert.
Nous, c'est des vrais supporters, debout, avec des frites, des bières. Résultat des courses, on va être obligé de mettre des tables. C'est un manque à gagner énorme pour nous sur 3 matchs.
3 matchs minimum. Les supporters sans et or espèrent que cette jauge de 5000 personnes ne sera pas prolongée. Lens, Maximilien Carlier, Europe 1.
C'est une grande avancée pour la lutte contre la violence animale. À compter du 1er janvier 2022, tous les élevages français de porcs et de volailles devront prochainement compter un référent bien-être animal. La personne est tenue de suivre une formation attestant de l'acquisition de connaissances en la matière. Une initiative du ministère de l'Agriculture qui ne satisfait pour l'instant personne. C'est un petit peu ça, Zoé Pallier.
Oui, à commencer d'ailleurs par les premiers concernés, les éleveurs qui ont 6 mois pour s'inscrire à une formation. C'est une contrainte administrative de plus, soupire Serge Morat. Il est président du mouvement de défense des exploitations familiales dans les Landes.
Le bien-être animal, ça ne se décrète pas avec une formation. L'immense majorité des éleveurs sont déjà responsables. Le plus embêtant là-dedans, c'est qu'il va falloir aller perdre une journée ou je ne sais combien pour un truc qui nous semble totalement superflu.
Apprendre ou réviser les réglementations, découvrir d'autres modes d'exploitation, pas sûr que ce programme suffise. En plus à dissuader les éleveurs maltraitants, estime Brigitte Gauthier. Elle est porte-parole de l'association de protection animale L214.
Comment voulez-vous que les contrôles soient faits en interne, soit par le propriétaire lui-même, soit par un employé qui dépend finalement du propriétaire? Quel employé dira au propriétaire « Ah bah attends, là, ce qu'on fait, c'est non conforme à la réglementation ». Bien sûr que le propriétaire le sait.
Alors pour l'instant, cette formation n'est obligatoire que pour les élevages de volailles et de porcs, mais elle reste accessible gratuitement aux acteurs des autres filières sur la base du volontariat.
Zoé Pallier pour Europe 1. Faire baisser notre facture d'énergie, ce sera sûrement une des priorités pour de nombreux Français en 2022. Avec la flambée des prix du gaz et de l'électricité, de nombreux ménages se lancent dans des travaux de rénovation énergétique. Bonne nouvelle, à partir du 1er janvier, il existera un site unique pour faire toutes vos demandes d'aide au financement, notamment avec le dispositif MaPrimeRénov', les explications de Maud Descamps.
Une plateforme internet unique, france-renov.gouv.fr, qui réunit tous les acteurs de la rénovation énergétique. L'objectif, simplifier au maximum l'accès aux aides pour les travaux de rénovation énergétique, car encore trop peu de Français connaissent les aides existantes, estime un expert du secteur de l'énergie. Un site internet qui réunit à la fois la liste des entreprises RGE, reconnues garants de l'environnement, et donc permet d'éviter les mauvaises surprises, mais aussi les aides au financement, comme MaPrimeRénov' ou le prêt à taux zéro. Pour les ménages les plus modestes, le site France Rénov' propose aussi un accès à un accompagnateur pour les guider et les conseiller dans leurs travaux, car c'est sur cette catégorie de propriétaires que le gouvernement entend mettre un coup d'accélérateur. Malgré les aides, le reste à charge pour ces ménages reste souvent trop élevé.
La facture d'énergie qui va sans doute être allégée avec les températures actuelles. Plus besoin de chauffer sa maison en plein hiver. À Perpignan, par exemple, il a fait autour de 20 degrés aujourd'hui. Presque l'été, pourrait-on dire. C'est plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison. Un nouveau dérèglement climatique qui influe une nouvelle fois sur l'agriculture. C'est ce qu'explique Cédric Ringenbach, président fondateur de la Fresque du Climat.
Malheureusement, ça va être de plus en plus fréquent. Et donc,
clairement, il y a des enjeux maintenant d'adaptation. Il faut évidemment lutter contre le changement climatique et en parallèle, il faut s'adapter. Il faut adapter les semences qu'on utilise, il faut adapter les modes de culture. Il faut aussi parer au fait qu'on n'aura pas le niveau de récolte escompté tous les ans. Donc, il y a un gros travail d'adaptation de tout l'ensemble de l'économie autour de ça. Et donc, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, les assureurs se demandent s'ils sont capables d'assurer l'agriculture à l'avenir. Donc, si c'est pas les assureurs, il faudra que ce soit la solidarité nationale, parce que on ne peut pas compter sur les agriculteurs pour assumer seuls le risque climatique. C'est pas possible.
Une météo douce, mais ça ne devrait pas changer demain.
Oui, Johan, douceur printanière au lever du jour avec des minimales comprises généralement entre 10 et 13 degrés, c'est assez exceptionnel. Les maxis afficheront le plus souvent 13 à 16 degrés donc sur le pays. Comptez un petit peu plus quand même au sud de la Garonne et près de la Méditerranée avec 17 à 19 degrés sur le piémont pyrénéen. Elles peuvent atteindre 19 à 21 et même un peu plus jusqu'à 23. Côté ciel, notre perturbation continue de s'évacuer. Les précipitations dans le nord de Rhône-Alpes vont se poursuivre de façon assez soutenue jusqu'en milieu de nuit avant de cesser demain. L'alerte orange est toujours en cours dans 5 départements. Le Puy-de-Dôme pour les crues. Le département de l'Ain également concerné par les crues, mais aussi par les fortes pluies. Double vigilance, on en remet une couche pour l'Isère et les deux départements savoyards qui, en plus des pluies, doivent faire face à un risque d'avalanche très élevé. Et puis, du côté des précipitations, demain, allez, pratiquement plus. Il pleuvra encore un petit peu le matin en Lorraine, en Alsace, vers le Jura, l'après-midi le long de la frontière belge et luxembourgeoise. Ailleurs, ce sera du temps sec, beaucoup de grisailles et de brouillard pour débuter la journée. On a le soleil qui sera de la partie du côté de la Méditerranée, sur le Piémont, vers l'Aquitaine. Et puis, ce soleil va grignoter du terrain au fil des heures jusqu'au Poitou-Charentes, aux portes de la Touraine, le Massif central, la vallée du Rhône et les Alpes retrouveront également des éclaircies.
Merci Marlène Duré.
Europe Nuit.
Johan Tritz sur Europe 1.
Claire Lemaître de Boursier.com. Bonjour Claire. La situation sanitaire n'inquiète pas Wall Street. Le Dow Jones et le S&P 500 signent de nouveaux records historiques ce soir.
Oui, Wall Street qui résiste très bien au tsunami Omicron. Les marchés continuent de tabler sur une vague aux effets sanitaires et économiques moins graves que pour les vagues précédentes. Le Dow Jones offre donc un nouveau record historique. 36 488 points. Il gagne 0,25%. Record aussi pour le S&P 500. Le Nasdaq, lui, est un peu à la traîne, en baisse de 0,10% ce soir. Wall Street reste donc optimiste à deux séances de la fin de l'année 2021. Une année faste malgré le Covid. Le Dow Jones affiche une envolée de 20% environ depuis le 1er janvier. Même chose pour le Nasdaq. Alors, les marchés montent, mais certains secteurs restent très fragilisés par l'envolée du virus. C'est le cas des compagnies aériennes qui repartent en baisse ce soir. Moins 1,2% pour Delta Airlines, moins 2,6% pour American Airlines.
Et c'est le cas aussi pour Tesla avec un léger repli ce soir.
Moins 0,2% pour Tesla. Son patron Elon Musk avait laissé les internautes décider pour lui sur Twitter d'une cession de 10% de sa participation au capital du constructeur automobile. Eh bien, il termine sa mission puisqu'il a encore écoulé plus de 934 000 actions, oui c'est ça, hier, pour un peu plus d'un milliard de dollars. Au total, il a vendu pour près de 16 milliards de dollars d'actions en 8 semaines. Les autres stars de la tech sont partagées ce soir. Apple termine stable, Microsoft gagne 0,2%, mais Amazon perd 0,9%. Et puis, le pétrole recule malgré une nouvelle forte baisse des stocks aux États-Unis. Le baril de brut léger américain WTI, 7,05%, 75,60$.
Et petite pause pour le CAC 40 après avoir battu hier un nouveau record historique en clôture.
Oui, il a même franchi ce matin, pour la toute première fois de son histoire, la barre symbolique des 7200 points. Et il perd finalement 0,27% à 7161 points. Rien de méchant alors que le ministre de la Santé évoque un raz de marée en France à propos du variant Omicron. La plus forte hausse, elle est pour Téléperformance. Le spécialiste de la relation client va s'offrir Centur, un prestataire du gouvernement américain pour 400 millions d'euros et l'action Téléperformance monte de 1,6%. Les marchés européens ont terminé en baisse à l'exception de Londres qui monte de 0,7%. Londres qui était fermé depuis vendredi. Francfort de son côté perd 0,7%, Milan moins 0,4%, Madrid moins 0,2% et moins 0,3% pour le CAC 40 qui clôture à 7161 points.
Merci Claire Lemaître pour toutes ces précisions.
BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente l'invité éco.
Ce soir, c'est avec Johannes Sonnen, directeur général de Celio, invité à la mi-journée de La France Bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteuil. Il est ce soir l'invité de l'interview éco à 22h20.
Bonjour Johannes Sonnen.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Celio, Celio qui existe depuis plus de 45 ans, 2200 salariés, 270 magasins en France, et vous en avez plein d'autres en Espagne, en Belgique, en Italie. Vous, Johannes Sonnen, ça fait un an que vous êtes arrivé chez Celio, avec pour mission eh bien, celle de retrouver le Celio que nous avons tous connu dans les années 90-2000. Celio, c'est encore le numéro un de la mode en France, mais c'est quoi très précisément Celio aujourd'hui?
Voilà, Celio, c'est déjà une belle marque iconique française parce que beaucoup d'hommes ont une histoire avec Celio. C'est une marque qui a marqué son temps dès les années 80, notamment avec par son impertinence, avec un slogan dans les années 90 qui était « La mode, je m'en fous ». Et aujourd'hui, cette marque est revitalisée, et notamment avec un nouveau slogan « Binormal » qui célèbre les hommes et toutes les normalités.
Qui en revient un peu au même. On s'en fout, on veut juste être à l'aise dans les habits que l'on estime être cool pour nous.
On veut effectivement être à l'aise, on veut être dans l'air du temps, on veut du confort, de la praticité, et c'est ce qu'offre Celio.
Alors, comment ça va en ce moment, en ces fêtes de fin d'année? Vous avez fait un bon mois de décembre chez Celio?
Oui, on fait un mois de décembre qui est aligné avec nos prévisions. Donc, c'est un bon mois de décembre dans la lignée des chiffres et de l'activité depuis le déconfinement. Donc, cette année 2021 est vraiment l'année de la renaissance pour Celio.
Tiens, même la cinquième vague fulgurante ne vous a pas trop impacté dans les magasins? Ou alors le numérique, une fois de plus, est venu compenser l'éventuelle faiblesse dans les magasins?
Il n'y a pas eu de faiblesse dans les magasins, c'est-à-dire qu'on a eu du trafic dans nos magasins. Nos clients sont venus dans nos magasins physiques. Ils sont venus en région parisienne, mais bien évidemment dans toute la France, parce qu'on a 370 magasins en France qui sont des magasins très attractifs.
Donc 370 magasins. Alors il faut le dire quand même, Johannes Sonnen, c'est que Celio revient de loin. Hein. Vous avez dû fermer plus d'une centaine de magasins. Vous vous êtes séparé de près de 300 salariés. Là, vous venez de le dire, il reste 370 magasins. Vous êtes dans une belle dynamique avec ce slogan binormal. Vous voulez redevenir quoi? Une chaîne populaire, une chaîne branchée, vous voulez redevenir qui?
Alors, nous revenons à l'ADN de Celio. Et l'ADN de Celio, c'est un ADN d'une marque accessible et populaire. Donc, Celio s'adresse à tous les hommes. Donc, Celio ne fait pas des produits qui sont issus des dernières tendances de mode. Comme on le disait, Celio, c'est de l'équipement pour tous les hommes. C'est le rendez-vous incontournable de l'homme.
Mais
finalement,
c'est quoi, par exemple? Quel est votre produit? Quand on va chez vous, on achète quoi?
Alors, chez Celio, on achète des jeans, des t-shirts, on achète son premier costume, mais on achète aussi, depuis quelque temps, des licences, et on active beaucoup nos clients.
Quelle
avec
licence?
Des licences.
De quoi, par exemple?
Donc, des licences de manga, comme One Piece, comme Pokémon, des licences comme L'Attaque des Titans, qui a été notre dernière actualité sur le mois de décembre.
Quand on veut habiller tout le monde, parfois on n'habille personne, parce que du coup, on a du mal à trouver son client, et beaucoup de gens se disent « bah non, je ne vais pas pousser la porte ». C'est pas pour moi parce que c'est pour un tel. Comment on fait justement pour être... C'est sûrement le plus dur dans le monde de la mode. Être la marque de tout le monde.
Alors, la marque de tout le monde, elle ne s'impose pas. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un lien particulier entre les hommes et Celio qui font que les hommes entrent dans nos magasins sans se dire c'est pour moi ou pas. Une fois qu'ils sont dans le magasin, c'est notre job effectivement de les séduire avec du choix et du renouvellement. Et pour s'occuper et pour pouvoir habiller tous les hommes, cette notion de choix est fondamentale. Et nos équipes produits ont retravaillé durant toute cette année pour donner du choix, de l'inspiration aux hommes.
Et du choix, cette inspiration, ça passe aussi par une stratégie de baisse des prix. Vous avez pris cette décision de baisser les prix, je crois, avec par exemple des t-shirts à moins de 10 euros, c'est ça?
Oui, depuis le déconfinement, nous avons retrouver nos clients avec cette baisse de prix qui se situe à 8% de baisse par rapport à 2019, qui est notre année de référence, avec des t-shirts à 9,99, avec des pantalons chinois à 29,99, pour retrouver justement cette accessibilité prix.
Mais alors, ça signifie quoi? Que votre concurrent, c'est qui? C'est H&M?
Alors, on n'a pas l'habitude de regarder nos concurrents parce que notre rapport.
Là, vous savez quoi? On vous croit pas du tout.
Notre rapport produit-prix est unique. Alors, néanmoins, nous ne sommes pas sur une île déserte, donc nous regardons effectivement tous les acteurs du marché, ceux qui proposent des produits accessibles et qui vont des enseignes internationales comme H&M, mais aussi des enseignes qui sont plus dans la partie équipement sportif.
Le Covid vous a malgré tout aidé d'une certaine manière. Vous étiez en plein repositionnement à ce moment-là. Le numérique, grâce à cette période entre guillemets du Covid, ça vous a permis d'aller recapter plus vite que ce que vous escomptiez une partie de votre clientèle?
Alors je ne dirais pas que le Covid nous a aidés, parce que quand on ferme des magasins pendant 3 mois, c'est d'abord des difficultés, d'abord de la souffrance, mais ça nous oblige aussi à rattraper finalement le retard sur le digital qui était le nôtre et qui nous a permis de passer de 4 à 10% des ventes sur le digital aujourd'hui. Mais j'insiste sur le fait que nous croyons justement à nos magasins et à cette capacité d'allier le digital avec nos magasins physiques.
Donc les ventes sur le numérique ont bien augmenté. Ça signifie quoi? Qu'aujourd'hui, le numérique, ça représente quoi chez Célio?
C'est 10% des ventes. C'est un parcours qui est au choix du client.
Ça veut dire quoi au choix du client?
Au choix du client, ça veut dire qu'il le commence chez lui et il se fait livrer dans un magasin, ou après une visite magasin, quand il lui manque un produit, une taille, il a la capacité aussi de commander son produit et de se le faire livrer à domicile ou en magasin.
Il y a un cercle vertueux, à Click & Collect en magasin, on l'entend. Puis des magasins qui vont complètement évoluer, parce qu'on ne change pas une marque sans ça non plus. Je crois que vous voulez tout décloisonner, on va quasiment aller chercher ça au fond des réserves maintenant, mais des réserves bien organisées, hein.
C'est à peu près ça, parce qu'on a ouvert un nouveau concept à Carré-Sénart le 3 décembre dernier, sur 600 mètres carrés. Et là, on est complètement transparent. C'est-à-dire
600 mètres carrés de Célio?
Oui, 600
mètres carrés. Mais on fait quoi là-bas?
Alors, 600 mètres carrés...
c'est que les hommes, il n'y a rien pour les femmes encore.
C'est effectivement uniquement pour les hommes. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de choix. On y trouve les licences, les jeans, les t-shirts, la City, qui est quand même... nous sommes tous surpris du regain d'intérêt pour les vestes, etc., à la sortie du confinement.
Ça, vous l'expliquez comment? Parce que malgré tout, c'est une surprise.
On veut être chic, hein.
Ouais, mais avec le télétravail. Alors peut-être parce qu'on n'a jamais eu autant de recrutement qu'en ce moment. Donc peut-être que, notamment pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, c'est une des raisons.
J'allais rebondir. On est connu pour le premier costume, la première veste. Donc ça en fait partie. Il y a aussi des cérémonies. Et puis des portées qui se casualisent, mais sur lesquelles on met une veste avec des baskets. Et ça rentre tout à fait dans l'air du temps.
Et demain, on vous retrouve, Emmanuel, dès 13h aux côtés d'Elisabeth Assayag pour La France Bouge, en direct de 13h à 14h sur Europe 1. Vous parlerez marché de la cosmétique avec votre invitée Juliette Lévy, fondatrice de Oh My Cream. Et maintenant, on s'intéresse aux unes de demain. On commence avec le journal La Croix, qui revient sur l'agenda bousculé de la France avec la vague du Covid. Et cela parce que les Français, notamment Emmanuel Macron, vont présider pendant 6 mois le Conseil de l'Union Européenne. Une présidence qui s'avère bien particulière pendant cette période sanitaire et cette crise sanitaire. Libération se demande ce qu'attendent les électeurs de la gauche. Alors que la gauche est divisée, le journal a fait un sondage sur les différentes attentes des militants. Juste au-dessus se dresse un petit encart sur Michel Houellebecq, l'écrivain français qui fait la une du Figaro. Michel Houellebecq qui revient avec son nouveau livre Anéantir, un grand roman sur les maux de la société et un retour 3 ans après son dernier roman. La une de Ouest-France est sur toute autre chose. A-t-on perdu des habitants dans notre commune? C'est une question qu'on se pose de temps en temps, c'est vrai. Et le quotidien qui délivre donc un long dossier. Et pour l'instant, les Pays de la Loire et la Bretagne sont dans le positif. Et enfin, les Échos parlent plutôt des baisses d'impôts du quinquennat d'Emmanuel Macron, la taxe d'habitation, les emplois à domicile. Le journal économique fait le point sur les différents dossiers. Tout de suite, c'est la Libre Antenne avec Sabine Marin.
Bonsoir Yoann, à tout à l'heure, à 23h pour les prochaines informations.